sur les flux migratoires, justement, alors la première personne à ma connaissance, enfin celle qui en général est citée comme la première qui a vraiment fait des réflexions féministes sur la mondialisation, c'est une femme qui s'appelle Saskia Sassen. Je crois qu'elle est née en Argentine, elle a vécu en Italie, aux États-Unis, je sais pas où. C'est une femme très intéressante et qui a une vision très globale. Elle dit, mais voilà, le discours dominant, c'est un discours super, l'hypermobilité des élites, notamment des élites, des gens qui travaillent dans la finance, dans la banque et tout. Et elle dit, mais la mondialisation, en fait, c'est pas du tout que ça. La mondialisation, c'est aussi, il faut aussi la regarder par en bas, pas seulement par en haut, et c'est pas seulement l'hypermobilité des cadres. Elle parle d'un truc qui... Elle parle de couples sans femmes. Elle parle de couples hétérosexuels. Et dans ces couples sans femmes, en fait, celles qui sont les femelles et de sexe féminin considérées comme des femmes ne font pas le travail habituellement des femmes, c'est-à-dire ne font pas le travail domestique, n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, n'ont pas le temps de, voilà, d'avoir non plus beaucoup d'enfants, elles reportent à plus tard, enfin bref. Donc face à ce manque de femmes dans les couples, il faut que quelqu'un fasse le travail malgré tout, et pour faire ce travail, y a une demande de main-d'œuvre, et c'est une main-d'œuvre fondamentalement, généralement féminine, soit de la campagne, soit de pays moins riches ou plus appauvris. Donc, en fait, la mondialisation des élites, elle implique une mobilisation de main-d'œuvre, donc une migration de femmes du Sud, je dis ça pour simplifier, ou de la campagne. Il y a toujours eu une forte participation des femmes dans la migration, mais c'est vrai que maintenant, elle apparaît de manière un peu plus visible et elle se développe. Et maintenant, dans les chiffres de l'ONU, ils disent que, grosso modo, maintenant, il y a 50-50 dans les migrations internationales. Certaines personnes l'appellent le care drain, sur le même modèle que le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, l'attraction des cerveaux. Là, c'est l'attraction du care. Et il y a des gens aussi qui parlent de crise international et d'internationalisation du care, care CAERE, qui veut dire le fait de prendre soin, de s'occuper, etc. Personnellement, plutôt que de dire care, je préfère réfléchir de manière plus large sur la reproduction sociale. C'est un peu plus, à mon avis, un peu plus large que le care. Parce que ça, le care, souvent, on voit le travail d'affection et tout, mais ils n'ont pas besoin que de travail d'affection, ils ont besoin aussi qu'on gratte par terre pour enlever les tâches dans les usines, dans les hôpitaux, dans les... Enfin, il y a aussi un travail très ingrat qui n'est pas du tout un travail émotionnel, etc. Donc, souvent, ça nous est présenté comme, oui, les méchantes et dégueulasses femmes blanches occidentales de classe moyenne et supérieure, autrement dit, les bourgeoises veulent travailler et avoir des bonnes, et se décharger sur des femmes philippines ou de je sais pas quoi, de leurs devoirs de mère et d'épouse. Peut-être qu'il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que aujourd'hui la plupart des femmes sont amenées à chercher un emploi rémunéré parce que de toute façon elles en ont besoin pour vivre, et que l'État a enlevé toute une partie des services publics. Les hommes, pour la plupart, ne se sont pas substitués, ne se sont pas levés en masse pour dire « Ah, mais moi, je m'en occupe, je sors le chien, je lange le gosse, je vais faire les courses et le ménage et le machin. » Donc oui, en effet, c'est là qu'il y a une crise de la reproduction sociale. Et face à cette crise de la reproduction sociale, l'OCDE notamment, et le Bureau international du travail notamment, ils l'ont vu venir, bien entendu, puisque c'est eux qui ont demandé qu'on privatise. Donc, ils ont déjà réfléchi à un certain nombre de stratégies. Et parmi ces stratégies, ben, y a le recours à une main-d'œuvre migrante féminine de pays du Sud. Elle pourrait aussi être un peu masculine, cette main-d'œuvre. Quelquefois, elle l'est. Mais enfin, ils ont bien logiquement pensé que personne qui accepterait, entre guillemets, de faire ce travail, ce serait surtout des femmes, quoi. Donc, en fait, c'est un truc qui est en grande partie planifié, organisé. Et le truc encore, enfin, quelque part encore plus vicieux, c'est que face à ça, donc ils auraient pu dire, ok, on va importer de la main-d'œuvre. Soit on peut l'importer de manière officielle en donnant des visas et machin, soit on peut carrément faire des politiques migratoires de fermeture des frontières. On sait que de toute façon les femmes et les gens vont venir parce qu'ils ont besoin ou elles ont besoin de travailler, mais en plus ces personnes seront sans papier. Ce qui permettra bien sûr de faire qu'elle coûte moins cher en termes de... Voilà. Ah, ah. Sur la question que vous disiez, sur le fait que ça touche pas que les femmes, la question des migrations, les politiques migratoires, souvent, elles sont pas censées être sexuées, c'est-à-dire, genre, elles s'appliquent pour tout le monde. Mais en réalité, si on regarde bien, on se rend compte que dans plein de cas, dans plein de lois migratoires, la seule possibilité pour les femmes de se déplacer légalement, c'est en étant mariées, ou en se mariant, ou en suivant un membre masculin de la famille, genre le père ou le mari. Donc en réalité, derrière des politiques qui semblent neutres, la politique qui prédomine concernant les femmes, dans la plupart des cas, et puis depuis souvent très longtemps, c'est une immobilisation des femmes. Et souvent, en plus, on nous dit que c'est pour nous protéger des méchants réseaux de trafic d'êtres humains et tout. Il y a un discours de soi-disant protection des femmes qui est une manière tout simplement de leur dire « Écoutez, restez chez vous, c'est trop dangereux, ne sortez pas dehors à des heures indues et ne partez pas dans des pays étrangers où vous allez être immédiatement livrés à des réseaux mafieux, etc. » Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que, après, ça peut être tout à fait vrai que en franchissant des frontières, on est obligé de se mettre en cheville avec des réseaux mafieux. Mais c'est encore une autre question. Et on est obligé de le faire parce que les lois migratoires ne nous permettent pas d'obtenir des visas normalement, simplement, etc. Ou même tout simplement parce que les lois migratoires nous obligent à demander des visas alors que... Pourquoi les frontières? Bref. Donc, en réalité... Première chose, les questions migratoires, ça touche tout le monde, mais en fait, les femmes sont particulièrement, voient leur mobilité particulièrement rendue plus difficile que celle des hommes, à moins que ce soit dans le cadre du mariage. Mais bon, le mariage pose un certain nombre de problèmes que j'ai pas besoin de développer ici, je crois. Et l'autre élément, c'est que pour les emplois traditionnellement occupés par les hommes... À l'heure actuelle, il y a une moins grande demande et par contre, il y a une demande du fait de tout ce que je disais tout à l'heure, de la privatisation des services publics et tout notamment, et du vieillissement de la population dans un certain nombre de pays. Il y a une demande pour un type de travail que la plupart des hommes ne veulent pas faire, n'acceptent pas de faire. La plupart des hommes n'acceptent pas de nettoyer par terre et de... excusez-moi, de torcher les personnes âgées et malades pour un salaire ridicule, quoi. Donc, dans tout un tas de circonstances et de situations, quand, par exemple, des familles décident de qui doit partir à l'étranger pour aller gagner de l'argent, soit les femmes elles-mêmes disent « je veux épargner à mon mari et à mon père, à mes fils, la honte et l'horreur de faire ces boulots de merde », soit elles sont désignées pour aller faire ces boulots, enfin, pour plusieurs raisons, souvent... Et les types de boulots dans lesquels d'habitude les hommes acceptent plus ou moins de travailler, ben y en a pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est des domaines d'emploi en plus ou moins en perte de vitesse. Par exemple, je sais pas moi, l'industrie automobile, le travail industriel classique, il est en train de diminuer. Donc une partie des hommes, en tout cas, ne bougent même pas, puisqu'ils savent très bien que c'est pas eux qui vont trouver du boulot. Là, je pense en particulier à une recherche d'une amie espagnole qui s'appelle Laura Osso sur l'émigration, notamment de femmes dominicaines en Espagne. Les femmes dominicaines, elles savent très bien que si elles vont en Espagne, elles vont trouver du travail comme bonne, par exemple, ou bien dans la prostitution. Et elles savent très bien que pour leur mari, par exemple, comme maçon, ben, y a pas beaucoup de boulot, ils vont galérer. Donc elles leur disent, peut-être d'ailleurs avec des arrière-pensées, mais elles leur disent... écoute chérie, je vais en Espagne, attends-moi avec les enfants. C'est pas forcément, ça produit pas forcément des conséquences très heureuses pour plusieurs raisons, mais enfin disons, il y a une tendance à ce que se développe la migration, surtout des femmes. Il y a une autre raison aussi à promouvoir la migration féminine plutôt que masculine, parce que les États, ça les intéresse aussi. Les États, notamment, ils ont besoin de l'envoi d'argent des migrants et des migrantes, notamment pour payer la dette ou les intérêts de la dette, ou bien parce qu'ils ne veulent pas investir dans le développement, ils se disent « oui, mais quand même, les femmes, elles vont envoyer de l'argent pour construire une école ou mettre du drainage dans leur village et tout ». Et donc, ce qu'ils ont constaté, de même que dans le microcrédit, c'est que les hommes, quelquefois, ils gagnent mieux, enfin même en général ils gagnent mieux, mais par contre une partie le dépense pour eux, pour leur boisson, pour leur voiture, pour leur nouvelle épouse, pour n'importe quoi, tandis que les femmes en général elles envoient tout ou presque tout et pendant de longues années, quoi. Donc du point de vue de la rationalité économique, il vaut mieux envoyer les femmes et il vaut mieux prêter et faire des crédits aux femmes qu'aux hommes. Donc les acteurs économiques qui ont voix au chapitre là-dedans, ils envoient plutôt les femmes, quoi. Voilà. Et sur la GPA, la grossesse pour autrui, j'ai assisté il n'y a pas du tout longtemps à une présentation par des chercheuses d'Inde là-dessus, et il y avait une nana qui a fait apparemment la première recherche sur les cliniques, donc en Inde, où des femmes pratiquent la gestation pour autrui. C'est des autrui qui sont souvent des États-Unis. Enfin, là, on voyait des gens des États-Unis, je crois. C'est triste à dire, hein, mais un des trucs qui était vraiment les plus frappants, je commence par le plus frappant, c'est qu'en fait, les bébés, dans certaines cliniques, ils sont payés au poids, hein, à la naissance. J'ai lu aussi un article qui disait, ouais, c'est les filles mères, c'est la honte d'avoir des enfants, donc elle est dans un adoption. Mais en fait, là, pas du tout ce qu'on voyait. Donc elle avait enquêté dans ses cliniques, hein, dans un certain nombre où elle avait pu. C'est souvent des femmes qui ont déjà des gosses. Et c'est pour nourrir ces gosses qu'elles ont déjà, le mec ne trouvant pas de travail ou trouvant un travail trop bidon. Donc elles font un enfant de plus pour assurer la survie de l'ensemble de la famille. Elles ne peuvent le faire qu'avec l'accord du mari et souvent de la famille. Parce qu'en réalité, ça implique, là, ce qu'elle montrait, hein, il y a sûrement plein de formules différentes, mais il y a plusieurs centaines désormais de cliniques comme ça, mais pendant toute la grossesse, il les oblige à rester dans la clinique pour les surveiller, qu'elles ne fassent pas de conneries et tout. Donc notamment qu'elles ne mangent pas n'importe quoi, parce que les parents ne veulent pas que la femme qui va porter leur enfant mange des trucs sucrés, des trucs gras, des trucs indiens, hein, voilà, donc elle doit manger ceci, cela. Elles ne doivent pas faire d'efforts au cas où ça risquerait de faire du mal au bébé. Donc, par exemple, il y a des ascenseurs, elles sont obligées de prendre l'ascenseur. En fait, grosso modo, elles doivent rester étendues la plupart du temps. Il ne faut pas qu'elles voient trop leur famille, etc. Notamment quand elles voient leurs propres enfants, si jamais elles en ont, il ne faut pas qu'elles les serrent contre le ventre au cas où ça appuierait sur... Enfin, vous voyez, des trucs, mais incroyables, quoi. Il y a certaines cliniques où elles sont, il y a des caméras et tout, histoire de les surveiller tout le temps. Bref. Donc pendant un an environ, le temps de la grossesse, plus en général, on les fait souvent allaiter au début, puisque galère sinon et tout. Donc les enfants ne sont pas adoptés immédiatement, donc souvent elles ont eu le temps, y compris de les allaiter pendant 1-3 mois. Et voilà, donc elles passent un an où, si elles n'ont pas l'accord du mari et des enfants, enfin c'est pas jouable, quoi. Voilà, et tout ça pour des prix pas très élevés, des conditions... Là, j'ai décrit les conditions de la grossesse. Et puis souvent, une fois que les bébés sont emmenés, donc il y a certaines familles, entre guillemets, c'est les femmes elles-mêmes qui disaient ça, hein, « Tiens, telle famille, ils sont assez gentils, ils m'ont quand même envoyé une photo du bébé, maintenant, un an après, il va bien, je suis contente, des fois, il me parle par Skype, je sais pas quoi. » Mais grosso modo, je pense qu'il y a vraiment un truc très moche qui se joue autour de ça. Hein. Cette enquête qu'elle présentait, c'était des fœtus qui étaient implantés dans l'utérus des femmes, mais les femmes n'avaient aucun rapport direct, c'était pas leurs ovules ni rien. Mais malgré tout, souvent, les parents veulent des mères porteuses jeunes, en bonne santé, belle selon leurs critères, donc ça veut aussi dire souvent assez clair de peau et tout, alors que bien sûr ça va avoir aucun effet sur le bébé lui-même, quoi, ou elle-même. Mais bon, enfin bref, tout ça pour dire, franchement, c'était glauque. Hein. Production d'enfants. Si vous voulez lire des trucs vachement bien sur la production d'enfants aussi, je vous recommande l'anthropologue italienne qui s'appelle Paola Tabet. C'est des vieux textes, mais sur la production d'enfants comme un travail aliéné, ben là, c'est à fond ça, quoi. Les féminicides. Au Mexique, je pense que vous avez entendu parler des féminicides de Ciudad Juárez. Depuis le début des années 90, il y a eu plusieurs centaines de femmes qui ont disparu et toute une partie sont réapparues, mais découpées en morceaux, ayant subi, avec des traces de violences sexuelles et de violences vraiment horribles et tout. Et depuis les années 90, l'État mexicain n'a réussi à trouver aucun coupable, aucun suspect et aucun coupable. Donc en fait, il y a une impunité autour de ces assassinats avec violence sexuelle de femmes, de jeunes femmes. Il y a une impunité qui est vraiment impressionnante et vraiment qui pose question, quoi. Comment ça se fait alors que tout le monde a proposé de les aider, le FBI, la CIA, Amnesty International, l'ONU, le monde entier est allé à Ciudad Juárez, a dit alors, est-ce qu'on peut... Une des choses qu'on constate, c'est que Ciudad Juárez, donc c'est la frontière entre le Mexique et les États-Unis, c'est là où il y a plein de gens qui essayent d'aller aux États-Unis, qui n'arrivent pas à passer, qui restent en X temps en train de, voilà, d'essayer de survivre, ou alors qui décident carrément de s'arrêter là, ou en tout cas de s'arrêter là pour un temps. Donc c'est une région industrielle où sont installées notamment les zones franches, depuis même déjà les années 60, hein, mais ça s'est beaucoup développé dans les dernières décennies, les zones franches, quelquefois connues comme maquiladoras, et maquiladoras, ça ne veut pas dire se maquiller, ça veut dire usine d'assemblage. Donc électronique et j'en passe, et textile et tout ça. Ces usines d'assemblage, depuis les années 90 notamment, ils ont constaté que la meilleure main-d'œuvre, de nouveau, c'était la main-d'œuvre féminine. Donc ils emploient surtout des femmes, surtout des très jeunes femmes, parce qu'au bout de quelques années, en général, elles sont complètement, leur santé est complètement défaillante, donc ça coûte moins cher de les virer et d'en prendre d'autres nouvelles qui arrivent. Donc les Ciudad Juárez, cette région de zone franche où il y a ces assassinats impunis, etc., une des caractéristiques communes à beaucoup de ces femmes, de ces jeunes femmes assassinées, c'est que justement, en plus d'être des femmes, là c'est moi qui fais une proposition d'analyse et d'interprétation, mais en plus d'être des femmes, la plupart, bah, c'est des jeunes travailleuses, quoi. C'est des jeunes ouvrières d'usine, ou c'est des jeunes femmes qui travaillent dans les bars, ou qui sont dans la vie nocturne de Ciudad Juárez, qui depuis longtemps est un centre d'attraction touristique aussi pour les États-Unis. Et on pourrait se demander, en tout cas moi je me demande, dans quelle mesure ces assassinats ne sont pas une manière de terroriser les femmes, à la fois en tant que femmes, mais aussi en tant que main-d'œuvre. Quel est le rapport entre le rôle de l'État dans son inaction, donc dans sa complicité en fait quasiment active, le fait de terroriser la meilleure main-d'œuvre, celle sur laquelle on peut se faire le plus de bénéfices, et l'extension du néolibéralisme. C'est-à-dire, souvent, on nous dit oui, de toute façon, l'État maintenant n'a plus son mot à dire, etc. Et moi, je pense qu'en fait, si d'une certaine manière, l'État a son mot à dire, et notamment l'État qui s'est débarrassé de tous les trucs sociaux et tout, il a gardé, la plupart des États, disons, ont gardé. Deux trucs importants, trois trucs importants, les politiques migratoires, ça ils les ont gardés sous leur contrôle, la plupart d'entre eux, ils ont gardé la police et l'armée, et ils ont gardé le pouvoir législatif, au moins en partie, quoi. Donc on nous dit oui, voilà, l'État n'a plus son mot à dire, alors qu'en réalité, il me semble que l'État continue en grande partie à jouer un rôle, mais un rôle qui va complètement dans le sens de l'économie néolibérale. On peut se demander s'il n'y a pas une réorganisation de la violence avec un mélange entre la violence militaire des États, la violence privée classique des hommes dans le couple, dans la rue, dans l'entreprise et tout, et puis au milieu, toute cette violence un peu diffuse, par exemple les féminicides, qui est-ce qui tue ces femmes ? Est-ce que c'est... disons, la police le couvre, c'est sans doute pas la police directement, c'est peut-être des narcotrafiquants, mais ces narcotrafiquants, c'est des hommes à titre privé, plus ou moins quasiment, enfin, dans ces assassinats, il y a toute une partie d'assassinats privés, si j'ose dire amateurs, qui se mélangent à ça. Il y a une espèce de mélange et de, voilà, de privatisation de la violence, privatisation à la fois dans le sens où il y a des milices privées, et privatisation dans le sens où il y a vraiment une continuité entre ce qu'on est habitué à considérer la violence domestique privée, et puis la violence publique de l'État, de l'armée, etc.